Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc, début aujourd'hui là, du vote par anticipation en personne, en présentiel et non pas par la...
Oui, écoute, aujourd'hui et demain, on commence le vote par anticipation dans pas moins de 8 États. Ça inclut des États importants stratégiquement pour la course présidentielle, notamment le Michigan, le Minnesota. Et je dirais que le fait saillant là, qu'on observe depuis le début de la journée, évidemment, on n'a aucun résultat, là, rien qui va être dépouillé avant le 3 novembre officiellement, ce sont les lignes d'attente interminables, des gens qui doivent faire le pied de grue, des fois attendre pendant des heures pour exercer leur droit de vote. Ça d'emblée, je pense qu'il faut qu'on le dise, là, ça n'a pas d'allure. Dans le pays le plus riche, le pays qui est censé être la plus grande démocratie au monde, c'est inacceptable que ce soit aussi pénible que ça d'exercer ce qui est peut-être, en fait, à certains égards, le droit le plus fondamental dans une démocratie, c'est-à-dire participer à des élections libres. Et c'est pas seulement le contexte COVID. C'est la même chose, tu le sais comme moi, aux 4 ans, dans plusieurs États aux élections présidentielles. C'était vrai il y a 4 ans, c'était vrai il y a 8 ans, des gens qui doivent attendre pendant des heures.
Pourquoi c'est comme ça?
Écoute, il y a mille et une raisons. Les élus locaux vont toujours se blâmer les uns les autres, mais la réalité, c'est qu'il y a des problèmes qui sont carrément structurels. Ce qui me semble être assez évident, c'est qu'on manque de ressources là, au niveau ne serait-ce que, soit dit en passant, il n'y a pas l'équivalent aux États-Unis d'élections Canada. Là. C'est géré État par État, des fois comté par comté, et dans certaines juridictions, clairement, on manque de ressources. On manque d'organisation, on manque de structure, et ça donne ce que ça donne. Et écoute, on se parle de ce qui se passait il y a 4 ans, il y a 8 ans. Je sais pas si tu vas t'en rappeler parce que c'était avant la COVID et on dirait que ça fait tellement longtemps.
On a tout oublié ce qui s'est passé avant.
On a tout oublié ce qui s'est passé début 2020. Mais tu sais, début 2020, on en avait des élections aux États-Unis qui étaient en présentiel, pour reprendre ton expression favorite. Les primaires démocrates, là. Les premières primaires, c'était en personne en février, en mars dernier. Puis je sais pas si tu te rappelles de ça, notamment en Californie. C'était le bordel. Il y avait des gens qui attendaient pendant des heures. Et donc, inexcusable, ça doit être dit. Une fois que ceci est dit, il y a aussi dans le contexte justement COVID et surtout le contexte du vote postal qu'on anticipe au mois de novembre.
Oui, que M. Trump essaye d'arranger avec le gars des vues.
Oui, tu as tout compris. Il y a quelque chose de peut-être en fait très positif, très encourageant dans le fait qu'il y a autant de gens qui sortent aujourd'hui. Et voici ce que je veux dire par là. Un électeur après l'autre qui était interviewé par différents médias aujourd'hui dans différents États disait la même chose, c'est-à-dire on veut pas attendre au 3 novembre pour voter. Et on ne veut pas, ou on ne veut, tout au moins, là, on ne veut plus voter par la poste. Et là, je suis pas en train, juste à être clair, je suis pas en train de boire le Kool-Aid de Donald Trump et dire que c'est bon parce que le vote postal, c'est de la fraude. Non, c'est pas ça. Par contre, ce que je dis, c'est que, à cause de toute la controverse qui a été créée et qui va continuer d'être créée autour du vote postal, ce qu'on veut, d'un point de vue démocratique, c'est limiter le plus possible le risque qu'il y ait justement une remise en question qui soit faite par rapport à la légitimité des résultats. Et moins il y a de gens qui votent par la poste, et je le répète, je ne dis pas moins il y a de gens qui votent, moins qu'il y a de gens qui votent par la poste, donc des gens qui auraient voté par la poste, qui vont aller voter en personne, le mieux c'est. Évidemment, en souhaitant qu'il n'y ait pas d'éclosion, qu'il n'y ait pas de problème de santé lié à la COVID-19, mais tant et aussi longtemps que c'est fait de façon sécuritaire d'un point de vue démocratique, c'est sûr que c'est idéal parce que ça limite complètement, peut-être pas complètement, mais de façon importante, les débordements, je dirais, qu'on pourrait peut-être observer avec tout ce que Donald Trump fait comme sparage depuis des mois sur cette question-là.
OK, et hier, c'était au tour de Joe Biden là, de se présenter devant des électeurs triés sur le volet pour répondre à leurs questions.
Oui, trier sur le volet, je te dirais peut-être trier de façon un peu moins sélective que ceux qui avaient questionné son adversaire, le président Trump, la veille. Tu sais, on s'était parlé du town hall, là, de la rencontre citoyenne à laquelle s'était livré Donald Trump. C'était très, très, très contentieux. Dans le cas d'hier, disons que ça jappait pas très, très fort. Là. Beaucoup de questions, franchement, faciles. En même temps, pour Joe Biden, c'était bon, ça l'a bien fait paraître. Je le sais que tu n'es pas le premier à trouver qu'il n'est pas nécessairement le pogo le plus déjeté de la boîte, mais hier... Il a quand même très bien fait dans ce contexte-là. La grosse question, je te dirais, c'est quoi les implications pour les débats? Toi et moi, on va s'en reparler beaucoup la semaine prochaine. Premier débat, c'est le 29 septembre, donc dans 10 jours à peu près à partir de maintenant. Et là, il y a non seulement l'animateur risque d'être beaucoup plus coriace que celui d'hier, ça va être Chris Wallace qui, disons, est assez, encore une fois, assez coriace comme intervieweur. Et aussi parce qu'il va y avoir un risque pour Joe Biden de se faire interrompre, de se faire couper, de se faire, en bon français, challenger par Donald Trump comme personne ne l'a fait hier. Et comment Biden va réagir dans ce contexte-là? Écoute, je te le pose comme question, je n'ai pas de réponse, je pense que personne n'en a présentement.
OK, est-ce que M. Biden se trompe entre le rôle de président et vice-président?
Je sais pas, mais disons que c'est une question que bien des gens se posent depuis des clips qui ont fait la manchette, mais disons qu'ils ont fait le tour des médias sociaux, qui sont assez comiques en fait. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, on élit le président et le vice-président en tandem. Et donc le nom du président vient en premier, le nom du vice-président en deuxième. Et donc quand on gagne, ben on se retrouve par exemple avec une administration Clinton-Gore, Bill Clinton, Al Gore, ou Bush-Cheney, ou Obama-Biden, quand Biden était vice-président. Et là, il y a quelques jours, la colistière, donc la candidate vice-présidentielle de M. Biden, Kamala Harris, dans une sortie publique, a fait référence à son administration si elle et Joe Biden gagnaient de cette façon-ci.
A Harris administration together with Joe Biden.
Mon Dieu!
Aïe, aïe, hein? Aïe, aïe! Une administration Harris avec Joe Biden. Là, on est même plus sûr qu'il est vice-président. C'est un figurant, c'est le gars qui va aller nous chercher du café aux pauses. Là,
écoute, tu peux pas faire ça. Tu peux pas inverser les rôles.
Tu peux pas inverser les rôles. Okay. Et
il y a un ordre de succession là qui est très bien défini. Là.
Exact. Et c'est surtout que, comment elle l'a dit, c'était même pas Harris-Biden, c'était une administration Harris avec Joe Biden comme acteur de soutien.
Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir?
Ben, la question se pose particulièrement, Pat, considérant que quelques heures après coup, et je te jure que c'est pas une joke, là, ce qu'on va faire jouer, c'est que ça s'est survenu littéralement quelques heures après le premier clip qu'on vient d'entendre. Et là, c'est le principal intéressé. Joe Biden, qui fait référence à sa future administration, on écoute.
Harris-Biden administration is going to relaunch that effort and keep pushing further.
Harris-Biden administration, lui-même, après qu'on se soit un petit peu payé sa tête, parce que sa colistière s'est un petit peu présentée comme la première en lice, fait lui-même référence à leur future administration comme une dans laquelle il semblerait être le vice-président.
Ça va alimenter les théories du complot de ce monsieur Q, bien mystérieux oui. Q. Merci
possible,
Raphaël. Bon week-end. 17h46, Mario Langlois s'en vient. Et après ça, à 18h, on va finir la semaine en buvant et en chantant.